sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Matthieu pour la fête du baptême du Christ. Alors Jésus paraît, venant de la Galilée vers le Jourdain, auprès de Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'opposait énergiquement à lui en disant,
« Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. »
Jésus répond et lui dit,
« Laisse à présent, car voici qu'il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste et droit. »
Alors il le laisse. Baptisé, Jésus remonte aussitôt hors de l'eau. Voici que les cieux s'ouvrent, et il voit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix venant des cieux dit,
« Celui-ci est mon Fils, le bien-aimé, en qui mon amour s'accomplit. » Chers auditeurs et auditrices, bonjour, bonjour André.
Bonjour Georges.
Eh bien, avec ce texte, nous voici comme un tournant important de la vie de Jésus, le charpentier de Nazareth. Et on pourrait dire aussi que pour nous chrétiens qui, d'une certaine façon, avons inscrit notre vie à la suite de Jésus, nous devons voir comment ce moment devient un tournant unique dans l'histoire de l'humanité.
Eh bien, justement, où le baptême de Jésus est-il situé dans l'Évangile?
Bien, ce récit du baptême est celui qui ouvre vraiment ce qu'on pourrait appeler le corps principal de l'Évangile, c'est-à-dire celui qui a été transmis pendant de nombreuses années oralement avant que les récits soient mis par écrit. En effet, les chapitres de l'enfance en Matthieu et en Luc sont comme des sortes de préfaces qui ont été, elles, probablement rédigées et ajoutées par les rédacteurs de ces évangiles. Et ce corps principal de l'évangile, donc, qui a été transmis oralement, eh bien, il s'ouvre par trois récits, qu'on pourrait appeler comme une espèce de séquence, la prédication de Jean le Baptiste et son annonce du Messie, le baptême et l'onction de l'Esprit pour Jésus, et la retraite de Jésus au désert sous la mouvance de l'Esprit. Donc, prédication de Jean, baptême de Jésus et retraite au désert. Cette séquence va situer l'Évangile dans l'histoire d'Israël, qui est le peuple de Dieu. Et elle se présente aussi comme une sorte de résumé de la mission de Jésus.
Je pense qu'il serait bon de voir qu'est-ce que prêchait Jean le Baptiste.
Alors Jésus paraît, c'est comme cela que ça commence. On avait au début du chapitre 3 le même verbe « paraître » pour dire l'entrée en scène de Jean dans l'histoire d'Israël. Jean prêche et il baptise sur les rives du Jourdain, le Jourdain qui est un petit fleuve qui se déverse dans la mer Morte et qui borde à l'est, la Palestine, Israël. Le récit qui précède nous a dit que c'était ce qu'était la prédication de Jean. Qu'est-ce que Jean annonce? Eh bien, il annonce le grand jour du jugement de Dieu. Et dans la situation catastrophique qui est celle d'Israël au moment où Jésus va être baptisé, puisque le pays est occupé par les armées de Rome depuis près de 100 ans, Pompée est entré à Jérusalem en l'an 63 avant notre ère, eh bien, dans cette situation, beaucoup attendent la venue d'un libérateur. Ils pensent que Dieu ne peut pas laisser plus longtemps bafouer son honneur et sa gloire par la puissance des païens. Donc Dieu va choisir, va oindre, va consacrer un homme de son choix pour réaliser cette libération d'Israël. Et comment se fera cette libération? Eh bien, sans doute par une guerre où les Romains seront défaits, mais aussi où périront sans doute les Juifs infidèles. Alors pour se préparer à ce jour de Dieu, Jean invite à convertir son cœur, son style de vie, et à signifier cette conversion par un baptême. Le baptême, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une plongée dans les eaux qui sont symboles de pureté et de vie, et cela pour attester publiquement la décision du baptisé de se purifier au plan de sa vie personnelle intérieure. Jean va choisir des images du monde rural pour décrire le jour de Dieu. La première, c'est la hache qui va abattre les arbres qui ne produisent pas de bons fruits et que l'on brûlera. Ça, c'est le sens, et le sens figuré, c'est les hommes, les femmes qui ne produisent pas des fruits d'amour, de justice, eh bien, seront brûlés. Et l'autre image, c'est la pelle à vanner qui va séparer le grain de sa fine écorce et l'écorce qui sera brûlée. Là aussi, image d'une purification par la destruction des infidèles. À cette dernière image de la pelle à vanner, où on a le souffle de l'air et le feu, qui sont les moyens de purifier le grain de blé, eh bien Jean donne à cette image le nom de baptême. Il annonce donc que quelqu'un qui est plus puissant que lui va baptiser dans le souffle de Dieu et dans le feu. Or, le souffle de Dieu, nous savons que c'est son esprit, puisque dans la langue hébraïque, le même mot, roi, désigne à la fois le souffle de l'air et l'esprit. C'est d'ailleurs aussi le cas en grec, on a le mot pneuma et en latin on a le mot spiritus, qui tous les deux désignent à la fois le souffle, le vent et l'esprit. Mais celui que Jean annonce va agir par la puissance de Dieu et non pas par ses seules forces. Et donc c'est dans ce contexte, qui est l'attente d'un plus puissant choisi par Dieu, que va se dérouler le baptême de Jésus.
Pourquoi Jésus vient-il recevoir le baptême de Jean?
Oui, c'est une question importante et la réponse n'est pas facile. Jean, en effet, n'annonçait pas que ce plus puissant qui viendrait devait être baptisé. Il faisait que comparer l'action purificatrice de ce plus puissant à une sorte de baptême. Alors pourquoi Jésus va-t-il choisir d'être lui-même baptisé? Le dialogue que l'on a là entre Jean et Jésus souligne la difficulté, sans doute, de cette question. Jean va s'opposer énergiquement à ce baptême. Il lui dit « Moi, j'ai besoin d'être baptisé par toi et toi, tu viens à moi. » Jean devait connaître la grandeur spirituelle de son cousin, puisqu'ils étaient de la même famille. Il savait aussi que lui, Jean, n'était qu'un précurseur de celui qui devait venir, et que ce précurseur était plus important que lui. Alors Jésus va le rassurer en lui disant que ce baptême est la volonté de Dieu. Laisse à présent, il convient d'accomplir toute justice, tout ce qui est juste et droit. Il nous convient d'accomplir tout ce qui est juste et droit.
Qui est-ce que ce nous désigne?
Est-ce que c'est Jésus et Jean? Ben, peut-être, mais Jean a déjà accompli ce qui est juste et droit. Il s'est préparé lui-même à la venue du libérateur qui doit venir. Et si Jésus est lui-même ce libérateur, eh bien, en quoi doit-il se convertir et se baptiser? Alors, il faut peut-être penser que le « nous » désigne l'ensemble du peuple de Dieu, dont Jésus veut être solidaire. En effet, les trois récits synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, sont d'accord pour dire que la prédication de Jean recueillait une vaste audience. Selon Matthieu, pharisiens et sadducéens sont venus nombreux à son baptême. Luc parle de foule. Marc dit que tout le pays du Judée venait à lui. Eh bien, Jésus semble se glisser dans la foule comme un anonyme. Et cela fait, d'une certaine manière, contraste avec l'annonce de Jean qui parle d'un puissant libérateur. Plus tard d'ailleurs, Jésus reprochera à l'élite religieuse de ne pas avoir cru en Jean.
Les publicains et les courtisanes vous précèdent dans le règne de Dieu. Car Jean est venu vers vous dans le chemin de ce qui est juste et droit, et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains et les courtisanes ont cru en lui. Voyant cela, vous ne vous êtes même pas repenti pour croire en lui. Que signifie accomplir toute justice?
Mais la prédication de Jésus va, d'une certaine manière, porter à son plein accomplissement la justice, ce qui est juste et droit. C'est là qu'est tout l'enseignement de Jésus sur la montagne.
On vous a dit œil pour œil, dent pour dent. Or, moi, je vous dis, ne résistez pas violemment aux méchants. Si votre droiture ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le règne de Dieu.
Oui, pour accomplir ce qui est juste pour Jésus, il faut pousser à l'extrême la droiture en n'ayant pas d'autre règle que celle d'aimer inconditionnellement tout prochain, quel qu'il soit. Pour Dieu, pour Jésus, ce qui est juste et droit, eh bien, c'est la perfection de l'amour, c'est le pardon. Comme il le dira dans la synagogue de Nazareth au tout début de sa prédication dans Luc, où il va annoncer qu'il est venu proclamer l'an de grâce, c'est-à-dire l'année où toutes les dettes sont effacées, où toutes les fautes sont pardonnées. Mais pour accomplir ce qui est juste, pour aller jusqu'au pardon, pour rendre parfait l'amour, eh bien il faut que l'être humain soit en communion avec Dieu, il faut qu'il accueille l'Esprit de Dieu pour agir selon cet Esprit. Il faut qu'il soit plongé, baptisé dans l'Esprit de Dieu.
Que va-t-il se passer lors du baptême de Jésus?
Encore, le récit évangélique utilise des images qui sont prises dans la nature, mais pour décrire une expérience qui est éminemment spirituelle, et souvent c'est une expérience qui est invisible à l'observateur superficiel. Les deux images qui sont choisies, là, c'est le ciel qui s'ouvre, et l'Esprit qui descend comme une colombe. On sait que le ciel, ou bien les cieux, est l'image qui décrit le lieu de Dieu, mais je mets le lieu entre guillemets, parce que Dieu n'est pas localisable, il n'est pas soumis à notre temps et à notre espace. Dieu est partout, disait le petit catéchisme, mais là encore, il prend une image spatiale. À l'époque de Jésus, dans un contexte politique et religieux qui est plein de détresse, beaucoup de juifs parlaient d'un ciel qui était fermé, ce qui voulait dire que Dieu semblait avoir abandonné son peuple. Écoutons Isaïe qui traduit bien cette situation.
Alors Israël se souvint des temps antiques. Où est celui qui déposa à Moïse l'esprit de sainteté? Regarde du ciel et vois de ta demeure sainte. Ta compassion, tu la retiens? Mais c'est toi qui es notre Père. Notre libérateur depuis toujours, c'est ton nom. Si loin que remonte notre souvenir, tu n'agis plus comme notre roi. Ah, si tu voulais ouvrir les cieux et descendre.
Le ciel qui s'ouvre, Dieu qui descend, c'est donc la communication entre Dieu et Jésus. C'est, on pourrait dire, l'état de prière dans sa perfection. C'est la communion spirituelle dans l'Esprit. L'image de la descente de l'Esprit vient d'ailleurs comme compléter celle du ciel qui s'ouvre. Ce n'est qu'une seule et unique image pour décrire l'expérience forte que vit Jésus. D'ailleurs, l'image de la colombe est surtout liée au verbe « descendre », plus qu'à une représentation visuelle. L'Esprit descend comme une colombe pour venir sur Jésus. À la création, déjà, la Genèse parlait de l'Esprit qui planait sur les eaux. Et certains textes rabbiniques qui expliquent ce texte de la Genèse montrent qu'on se représentait à l'époque, sous forme de colombe, l'esprit qui planait sur les eaux de la création. Moïse aussi va parler du Dieu de l'Exode comme d'un aigle planant au-dessus de ses petits, les prenant et les portant sur ses ailes.
Quel sera le rôle de l'esprit dans la vie de Jésus?
Le livre d'Isaïe parlait de ce serviteur de Dieu qui recevrait l'Esprit pour annoncer aux nations la Torah, l'enseignement de Dieu. Il faut relire ces textes car Jésus les a sans doute très souvent médités et en tout cas il va s'en inspirer fortement.
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu en qui mon amour s'accomplit. J'ai mis mon esprit en lui. Il exposera la Torah aux nations. Moi, Seigneur Dieu, je t'ai appelé, je t'ai formé et destiné à être l'alliance du peuple et la lumière des nations.
Et un peu plus loin, au chapitre 61, c'est le serviteur lui-même qui s'exprime.
L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur Dieu m'a oint. Il m'a envoyé porter l'Évangile aux pauvres, panser les cœurs brisés, proclamer aux déportés la libération et aux prisonniers la liberté. Proclamer l'an de grâce du Seigneur Dieu.
Être alliance avec le peuple, être lumière des nations. Oui, le peuple, eh bien, c'est Israël, le peuple de Dieu, et les nations, ben, ce sont tous les autres peuples, appelés aussi les païens. Déjà, au temple de Jérusalem, Siméon, le sage, avait présenté Jésus, nouveau-né, avec ces deux expressions.
Mes yeux ont vu ton salut, gloire de ton peuple et lumière pour éclairer les nations.
Ainsi, la mission de Jésus est-elle double. D'une part, renouveler l'alliance entre Israël et Dieu, et cela en infusant, si on peut dire, l'amour divin dans les cœurs des fils et des filles de Dieu. Et, d'autre part, faire de ce peuple la lumière de Dieu dans le monde, et cela en étant témoin de son amour pour tous les êtres humains. Je crois, André, qu'on peut dire que nous sommes là à un tournant de l'histoire. En un cœur humain, en Jésus, Dieu trouve son amour parfaitement accompli. Dieu trouve en Jésus un Fils en parfaite communion avec lui. Et donc Jésus va être le chemin pour apprendre à devenir fils, fille de Dieu Père. Jésus va être ce porteur de l'Esprit, celui qui pourra donner l'Esprit d'amour. Jésus est choisi pour réaliser d'une certaine manière une alliance toujours nouvelle d'un peuple de Dieu qui sera sans cesse renouvelé. Et par lui, qui va ressusciter de la mort, eh bien, cette alliance sera une alliance éternelle. Cette alliance de communion, la Bible l'appelle aussi l'alliance de paix. On sait que dans la langue de Jésus, le shalom, la paix, évoque l'idée de cohésion, de concorde, de rassemblement dans l'unité. Écoutons l'apôtre Pierre qui parlera aux païens de l'évangile comme étant justement l'évangile de la paix.
Je me rends compte qu'en toute nation, quiconque est droit trouve accueil auprès de Dieu. Il a envoyé son message aux fils d'Israël, l'évangile de la paix par Jésus, Messie, qui est le sauveur de tous les humains. Vous savez comment Dieu a conféré à Jésus l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Il est passé partout en faisant le bien.
Oui, et à chaque Eucharistie, les chrétiens, les catholiques, redisent ces paroles de Jésus. « Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. » Et la prière ajoute « Que cette paix nous conduise vers l'unité parfaite. » Eh bien, lisons ce que Paul va écrire aux chrétiens d'Éphèse.
« C'est lui qui est notre paix. De ce qui était divisé, il a fait une unité. Il a voulu ainsi, à partir du juif et du païen, créer en lui un seul être nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier tous les deux en un seul corps. Il est venu annoncer la paix. Et c'est grâce à lui que les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père en un seul esprit. Aujourd'hui, quelle est la mission du Christ?
Eh bien, aujourd'hui, la mission du Christ, c'est la mission du disciple du Christ, du chrétien, de la chrétienne. Et cette mission, comme celle du maître, est double. Chaque communauté chrétienne, d'abord, doit vivre ce message de communion et de paix. Par la fraternité qui se vit au sein de la communauté, chaque communauté devrait être le signe de cette alliance entre Dieu et les êtres humains. Oh non, pas parce que ça serait une fraternité sans pécheurs, sans faute. L'Église est toujours faite de pécheurs. Mais parce que cette fraternité, cette communauté, va s'efforcer de vivre le pardon, et cela sans condition et avec tous. Et elle va le vivre avec la force qui vient de Jésus et du Père. C'est ainsi que les chrétiens vont être signe que la force de l'amour de Dieu agit en eux. C'est à la manière dont ils vont être capables de pardonner. « Voyez comme ils s'aiment », disait-on des premiers chrétiens. Et écoutons ce que dit la lettre de Jean, la première lettre de Jean.
« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Son amour est accompli en nous. »
Nous retrouvons le même mot que dit le Père à Jésus, « celui en qui son amour est accompli ». Jésus priera d'ailleurs aussi Dieu son Père en disant
« Que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous. »
Eh bien, nous qui sommes des hommes et des femmes choisis par Dieu, consacrés par Dieu à leur baptême, il faut que nous vous posions la question, de quel Dieu sommes-nous les témoins? D'un Dieu impersonnel, énergie divine, Dieu créateur? Ou bien est-ce que nous sommes les témoins d'un Dieu Père qui nous fait sien, qui nous fait de sa famille? Mais, et c'est là la deuxième tâche, on n'est pas fils de Dieu seulement pour soi, pour nous. Les communautés de Jésus ne sont pas seulement des milieux de fraternité où l'on est bien ensemble. Ces communautés de paix doivent être lumière pour tous et pour toutes.
Aujourd'hui, pour nous, comment être lumière pour les nations?
Bien sans doute, comme on vient de le dire, par l'exemple de notre fraternité, de notre communion en Dieu, en étant témoin d'un Dieu de pardon. Mais il nous est aussi demandé, je crois, davantage. Il nous faut rejoindre la présence de l'Esprit de Dieu dans le monde. Car l'Esprit de Dieu travaille tout être humain dans la profondeur de sa conscience. Par l'Évangile, les chrétiens doivent éclairer tout ce qui est bon. Dans les actes les plus quotidiens, des plus humbles des humains. J'ai parfois le rêve d'une émission de radio ou de télévision qui aurait pour but non de nous dire toutes les atrocités qui sont commises dans le monde, mais de nous dire chaque jour tout ce que l'Esprit de Dieu accomplit dans notre monde. Car s'il y a, c'est vrai, le mal, la misère, la guerre qui sévit toujours dans notre humanité, il y a aussi toute cette générosité qui est déployée, le plus souvent d'une façon anonyme, la générosité de tous les bénévoles, des infirmiers, des infirmières, des mamans, de tant d'autres, on n'en finirait pas d'énumérer. Le travail de l'Esprit aujourd'hui, il est de guider le monde entier vers l'unité. Tout homme, toute femme, c'est pour lui, c'est pour elle que Jésus a reçu l'Esprit d'amour du Père. Et non pas seulement pour ceux qui seront baptisés. Cette tension vers l'unité de l'humanité tout entière, est-ce que ce n'est pas, d'une certaine manière, ce qui est à la base de cette rencontre d'Assise qui a été voulue par le pape en 1986 ? Se tenir ensemble pour prier, au-delà de nos différences de religion, de nos divergences, et cela pour éveiller la force de paix qui se trouve au plus profond de chaque cœur. Devant les guerres qui sévissent en notre monde, on se demande comment tant de barbarie peut encore exister 2000 ans après l'Évangile. Est-ce que nous qui sommes chrétiens, nous sommes 1 milliard sur cette terre, nous sommes vraiment conscients de l'unité des humains de toutes les races et de cette unité en Dieu Père et donc de notre solidarité? La prière que nous vivons, que nous faisons, est-elle vraiment pénétrée de cette solidarité? Est-ce que nous avons mal, d'une certaine manière, à cette main qui tue? Est-ce que nous avons mal à ce regard qui est devenu haineux à force d'avoir peur? Est-ce que nous avons mal à ce ventre qui porte l'enfant du viol? Oui, avons-nous mal parce que dans le corps spirituel de l'humanité, c'est le visage humain qui est défiguré et c'est aussi le visage de Dieu. Oui, avons-nous assez conscience de cette solidarité, assez conscience pour savoir inventer, là où nous vivons, des forces capables de faire l'unité. Autrement dit, sommes-nous des artisans de paix, et cela dans notre communauté chrétienne, dans notre famille, notre milieu de travail? Est-ce que par la prière, nous savons puiser les forces spirituelles qui se trouvent dans le cœur de Jésus? Car ce sont ces forces seules qui auront la dynamique, l'énergie de réunir les cœurs et de pouvoir donner le courage du pardon. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il devrait se tenir des petits assises en permanence, partout. Des lieux où l'on se rencontre, musulmans, bouddhistes, juifs, chrétiens, pour s'écouter, pour se comprendre, pour se taire ensemble, afin d'écouter ce qui se vit au plus profond des cœurs, de se retrouver, frères et sœurs, à ce niveau de profondeur spirituelle, où chacun devient un unique, aimé éternellement de Dieu, et où alors nous découvrirons cette unité qui est encore cachée dans le cœur du Christ, mais qui est le secret projet de Dieu, de son amour. Celui-ci est mon Fils, mon bien-aimé. Dieu ne dit-il pas cela à chacun de nous qui sommes son fils, sa fille? Dieu ne dit-il pas cela de chacun des êtres humains qu'il aime comme son fils, sa fille? Alors, comment serons-nous lumière de l'Évangile pour dire à ce frère, à cette sœur qui l'ignore, « Toi, tu es aimé de Dieu, et tu es aimé de Dieu pour toujours. »
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi et du catéchuménat de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-254-8750.
514-254-8750. Ou utilisez notre numéro de télécopieur 514-256-1106. Vous nous trouverez aussi sur Internet. Téléphonez-nous, nous vous donnerons l'adresse exacte de notre site.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et à 23h. Choix musical et enregistrement, Luc Chandonnet.
Chers auditeurs et auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.